Bonjour et soyez les bienvenus dans l'architecture des mémoires du monde. Vous êtes sur CFM Radio. Et aujourd'hui, c'est à un artiste étroitement associé d'une part à l'Occitanie et au Tarn en particulier, ainsi qu'aux folles nuits parisiennes que les moins de 130 ans ne peuvent pas connaître que nous allons nous intéresser. Il est peintre, dessinateur, lithographe, affichiste, illustrateur, un musée lui est dédié et consacré dans sa ville de naissance au palais de la Berbie. À Albi, il s'agit d'Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfa, communément et modestement appelé Henri de Toulouse-Lautrec. Lautrec et on en parle aujourd'hui avec Gérard Conton. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Tu co-signes avec ta compagne Julie Conton un livre sur ce personnage facétieux, atypique et talentueux, hein, Henri de Toulouse-Lautrec ou les labyrinthes du temps. Un livre qui est paru aux éditions Mémoire du Monde en 2015 et avant que l'on parcourt un peu cet ouvrage et que l'on aborde le fruit de vos investigations, on va rappeler qui était un peu ce bonhomme issu de la noblesse et descendant direct des fameux comtes de Toulouse.
Absolument, Henri de Toulouse-Lautrec, il a une lignée prestigieuse, évidemment, la lignée du Haut-Languedoc, on peut dire, puisque le grand ancêtre guerroyait en Terre Sainte. Mmh. Donc il porte en lui une lignée de chevaliers et une lignée liée aussi à la culture équestre. C'est-à-dire que dans sa famille, on monte les chevaux de père en fils. On est hors lui, Henri de Toulouse-Lautrec. Le drame qui va faire le génie, c'est que Henri de Toulouse-Lautrec, eh bien, il va se briser les jambes. Hein, il va se briser. Il ne va pas pouvoir être cavalier. Mmh. Et grâce peut-être à ça ou ce malheur qui fait la grâce, il va devenir peintre.
Il faut dire que à l'âge adulte, il mesurait 1m50. Hein,
il mesurait 1m50, 1m52, tout à fait. Et d'ailleurs, il s'entourait toujours d'amis qui faisaient 2 mètres. Ouais. C'était absolument extraordinaire.
Il voulait être avec des grands.
Voilà, Tapier de Sélérant, son ami, comme d'autres qui étaient autour de lui, eh bien, c'était des personnages qui étaient soit très filiformes et très longs, soit très, très massifs et très hauts. Et donc, c'était aussi les protecteurs, parce qu'il faut se dire que dans Montmartre, lorsque Lautrec arpentait les rues de Montmartre le soir pour aller dans des cabarets, eh bien, il fallait se protéger. Tous les soirs, à Montmartre, il y avait un meurtre. Hein, on voit ça dans les journaux. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement, à la fois extrêmement curieux, sensible et haut, mais qui pensait aussi à sa protection. Et il avait des amis qui l'entouraient d'une manière physique.
Tu l'as dit, hein, il aimait passer ses nuits à Montmartre, que ce soit dans les maisons closes, les cabarets. Toulouse-Lautrec a une vie trépidante. Il a laissé derrière lui une œuvre conséquente. Hein. On parle de plus de 700 peintures, des milliers et des milliers de dessins, des aquarelles et des lithographies par centaines. C'était un touche-à-tout artistique qui se fait une renommée, que ce soit à Paris, puis dans toute la France, jusqu'aux quatre coins du monde, pas forcément de son vivant, comme souvent pour les artistes, mais pour parler vraiment de l'œuvre de Toulouse-Lautrec, Gérard Conton, qu'est-ce qui est vraiment prépondérant dans l'œuvre qu'il laisse ?
Alors, c'est un innovateur prodigieux, dont on a découvert peu à peu l'importance, parce qu'il est non seulement naturaliste, comme peut l'être Degas ou Manet, mais il ouvre des pistes à la peinture moderne prodigieuse, dont l'expressionnisme. C'est peut-être l'un des premiers expressionnistes.
C'est le post-impressionnisme, on dit souvent.
Voilà, c'est-à-dire qu'on l'oppose à l'impressionnisme, parce que Lautrec, il va chercher l'expression, il va chercher le trait féroce, qu'on va d'ailleurs retrouver dans les mots qu'il va lâcher sur les êtres. Il y a une manière de fouiller les êtres qui annonce effectivement l'expressionnisme. Et donc, c'est un pionnier. Et l'affichisme, c'est absolument extraordinaire.
C'est vrai que c'est très contemporain. Quand on voit ces affiches, c'est d'un modernisme hallucinant pour
cette époque-là. C'est hallucinant. Ça pourrait être un peintre d'aujourd'hui. Mmh. Ces affiches sont phénoménales. Il y a un sens du détail, de l'ouverture, du découpage, de mettre des personnages au premier plan massivement. C'est-à-dire que comme s'ils sortaient de la toile ou de l'affiche, qui est extrêmement moderne.
Parce que si on parle beaucoup des peintures de Toulouse-Lautrec, j'invite les auditeurs à aller regarder les affiches qu'il a pu produire, que ce soit pour des cabarets, pour des spectacles, souvent à Paris. Hein. On pourrait les utiliser aujourd'hui pour annoncer des festivals. Et malgré cette renommée qu'il va acquérir au fil des années, son productivisme aussi, Henri de Toulouse-Lautrec meurt plutôt jeune hein, à cause de ses excès. Si dans le rock, il y a le fameux club des 27, dont font partie des stars qui sont toutes mortes à l'âge de 27 ans. Dans le milieu de la peinture, il y a le club des 37. Rousseau, Van Gogh, Raphaël, Watteau, Toulouse-Lautrec, donc un siècle mystérieux qui vous fait dire que les grands peintres ne naissent ni ne meurent au hasard du calendrier. Et c'est un des faits peut-être qui vous a orienté et guidé, Julie Conton et toi, dans vos recherches pour ce travail afin de nous proposer cet ouvrage-là.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'âge de 37 ans, en fait, c'est des rythmes cycliques. Il y a 27, 28 ans et 37 ans qui sont des passages assez considérables où beaucoup d'acteurs, de musiciens, de peintres sont décédés, quoi. Et effectivement, Van Gogh meurt à 37 ans comme Lautrec. C'est un petit peu les deux génies flamboyants de l'époque qui vont se brûler dans l'époque, mais qui vont laisser une œuvre fabuleuse. Et on pourrait parler de Watteau, on pourrait parler du Caravage, on pourrait parler de plein d'autres, des peintres qui sentent souvent le soufre. Mmh. Hein, parce que c'était, je crois, Aragon ou Jean Ferrat qui parlait de Van Gogh mort, brûlé comme un insecte, ou Toulouse-Lautrec brûlé comme un insecte. Mais il y a cette idée de donner tout, d'aller jusqu'au bout, dans la création et de mêler la création à la vie d'une manière très étroite, très intense. Et évidemment, à trop regarder le soleil en face, on s'y brûle. Mais ce sont des œuvres solaires, des œuvres flamboyantes, c'est sûr.
Est-ce que ces faits-là, ces dates-là, le fait qu'il soit mort à 37 ans, donc plutôt jeune, même si à l'époque on mourait plutôt jeune, est-ce que ça fait partie des raisons qui vous ont poussé à consacrer un livre à Henri Toulouse de Lautrec?
J'adorais Rimbaud quand j'étais adolescent, il est mort à 37 ans.
Ok. Ouais.
Donc, c'est un rythme prodigieux, d'ailleurs, qu'on a évoqué dans Fragments de Fulgurance sur les noces cosmiques, oui. ce rythme des nœuds lunaires, faut revoir ce livre. Mais oui, parce qu'il y a quelque chose de fascinant dans le fait d'être happé comme ça en pleine jeunesse. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui restent jeunes. On ne les imagine même pas vieux. C'est impossible. On ne peut pas imaginer Arthur Rimbaud vieux, ni Lautrec, ni Van Gogh. Non, ce sont des êtres qui... Il y a une sorte d'éternelle jeunesse et d'éternelle immortalité, quelque part aussi. Du coup, parce que c'est une image... c'est un peu aussi Gérard Philippe qui meurt jeune. Il y a l'idée d'une présence continuelle, peut-être, quelque part, qui peut être suggérée. Mais maintenant, dans le cas de Lautrec, non. Ce qui était fascinant aussi chez lui, c'est qu'il incarne Montmartre. C'est l'incarnation d'une époque. Et puis, c'est un peintre qui est issu de la très haute aristocratie et qui va côtoyer les putains. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire. C'est qu'il change de milieu. Et donc, ce changement de milieu fait qu'il est au-delà de tous les préjugés. Comme Rimbaud a changé de milieu, puisqu'il a fini par devenir par trafiquant d'armes. Je veux dire que ce sont des êtres qui ne sont pas liés et prisonniers de leurs racines. Ça, c'est prodigieux.
Stéphanie de Monaco, si tu nous écoutes. Henri de Toulouse-Lautrec ou les labyrinthes du temps, art et géométrie temporelle, c'est le titre de l'ouvrage paru aux éditions Mémoire du Monde, dont il est question aujourd'hui avec Gérard Conton, co-auteur de cet ouvrage où la vie de l'artiste nous est évoquée, certaines de ses œuvres aussi. Mais ce n'est pas une biographie ni une critique de son travail à proprement parler que vous nous proposez, hein, en analysant les dates clés de la vie de l'artiste selon un principe dont on a déjà parlé dans le premier numéro de cette émission, la géométrie du temps. Vous dessinez, disons, des mandalas qui sont censés nous éclairer sur Henri de Toulouse-Lautrec et finalement sur sa destinée aussi. C'est un peu le cœur du livre, hein, Gérard Conton. Pas simple toujours de comprendre, mais avec peut-être un exemple et succinctement, explique-nous votre démarche et sa finalité.
Voilà, donc on va prendre un exemple extrêmement simple, parce qu'à la fois dans ce livre, il y a des choses extrêmement simples, d'autres qui sont un petit peu plus complexes. On va prendre le miroir des deux peintres infirmes. Bon, Henri de Toulouse-Lautrec, il meurt le 9 septembre 2001, dans les bras de sa mère. 9 septembre 1901, pardon, oui. J'avais dit autre chose.
Oui, 2001, tu as
dit. Ah oui, j'avais sauté un siècle. Non, il meurt donc le 9 septembre 1901 dans les bras de sa mère à Malromée, près de Bordeaux, dans le domaine de sa mère. Et la date miroir du 9 septembre, dans la roue des saisons, eh bien, c'est le 6 mars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au 6 mars, au miroir de sa mort, c'est la naissance d'une peintre qui va, pour l'instant... Sur l'instant, rien peut-être nous dire, mais on va expliciter. Maria Blanchard. Maria Blanchard, elle est bossue, elle est infirme. Lautrec, il est bossu, il est infirme. Maria Blanchard, c'est la génération d'après. C'est-à-dire qu'elle, elle va être cubiste. Évidemment, Lautrec n'est pas cubiste. Il est marqué par le post-impressionnisme, par le naturalisme, par l'expressionnisme qui l'annonce, etc. Mais tous les deux, ils vont surcompenser leur manque, en fait. Et leur manque, dans le cas de Lautrec, eh bien, quelque part, l'un comme l'autre, ils n'auront jamais d'enfants. Hein. L'un comme l'autre, ils sont infirmes. Maria Blanchard, elle est devenue infirme et bossue parce que sa mère était tombée pendant la grossesse. Lautrec, il est devenu infirme parce qu'il est tombé. Donc, il y a des liens constants qui se répètent entre ces deux êtres. Et l'un qui avait su, le premier peut-être sentir de manière intuitive ce lien, non pas bien sûr par la géométrie temporelle comme nous le constatons, mais par une prodigieuse culture, une intuition spirituelle, c'était René Huyghe, le conservateur, le grand conservateur du musée du Louvre dans les années 60, qui écrivait « N'est-il pas révélateur que ce demi-cul de jatte qu'est Lautrec ne rêve que de cavalier, que de jambes, le French Cancan. Un autre exemple combien révélateur serait celui de la pauvre Maria Blanchard, infirme, bossue, privée des joies normales de la femme et qui consacra sa peinture, tentée par le cubisme, à décrire passionnément l'enfance et la maternité. » Et donc, dans ces deux liens, un homme, une femme, deux infirmes, on a peut-être toute la misère personnelle qui permet la création. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, eh bien, ils font un véritable transfert dans un objet qui, en même temps, les figure et les fixe, la peinture, quoi. Et donc, ce miroir des deux infirmes, il parle peut-être, il peut parler fortement parce que on voit que tout est lié, en fait, tout est lié dans le temps et tout est lié dans l'histoire des êtres. Et Maria Blanchard, comment dirais-je, elle est partie d'Espagne pour monter à Paris. Lautrec, il est parti du sud pour monter à Paris. Il y a constamment des mouvements comme ça qui font que c'est une démarche que René Huyghe avait parfaitement condensée dans Dialogue avec le visible, en montrant ces liens-là qui sont des liens vraiment liés aussi aux jambes. Lautrec est privé de l'usage normal de ses jambes. Il va donc se passionner pour le vélo. Il va peindre des cyclistes. Il va peindre des cavaliers. Il va peindre des danseuses. Il va peindre constamment ce qui lui manque.
Des gens en mouvement.
Voilà, le mouvement qui lui manque. Le mouvement qu'on retrouve même dans sa manière de croquer. Hein. C'est une main agile.
Quand on voit ses dessins, ses caricatures.
Voilà. Et puis Maria Blanchard, cette misère d'une femme naine, difforme, bossue, lourdement handicapée, qui va peindre constamment des maternités. Alors paradoxalement, Lautrec, il a peint des actrices avec des petits chats dans la main. Et il y a un clin d'œil, évidemment, très caché à la maternité qui apparaît là, enfin très caché relativement. Et lui aussi, il a ce clin d'œil, mais d'une manière un peu ironique et dérisoire dans sa manière de le montrer.
Et donc, dans votre ouvrage, il y a des centaines et des centaines d'exemples comme ceux-là qui permettent de voir un peu le lien temporel qui existe entre la vie et l'œuvre de Henri de Toulouse-Lautrec avec d'autres artistes, avec d'autres de ses contemporains. Ces liens-là, d'aucuns diront que c'est le fruit du hasard.
Oui, mais le hasard est un complotiste, il est extrêmement organisé de manière géométrique. Donc voilà, quand le hasard devient répétitif, comment peut-on le nommer autrement, évidemment, que l'ordre caché ? Je ne crois pas au hasard, disait Einstein, bien sûr. Donc le hasard est une illusion. Une illusion est quelquefois une manière de masquer ses propres peurs. Parce qu'évidemment, admettre parce que qu'il y a une organisation... géométrique du temps, eh bien, ça renvoie peut-être à c'est certain, à avoir peur de se dire, oh, la liberté dans tout ça, où elle est, mais quelle est notre liberté? Je dis aux gens, vous êtes obligés de dormir la nuit, vous êtes obligés de manger, etc., etc. On a constamment des contingences. Donc, faut les accepter, les reconnaître et vivre avec.
Votre ouvrage est abondamment illustré et référencé. Si le profil artistique de Toulouse, le trek est au cœur de l'ouvrage, on va un peu au-delà de sa simple vie d'artiste, hein, de simple artiste. Qu'est-ce qu'on apprend de plus sur Toulouse-Lautrec en lisant cet ouvrage?
Alors, entre autres choses, parce qu'il y a énormément de choses, il se dirige dans une multitude de directions. On apprend, Toulouse-Lautrec aurait pu être un grand écrivain s'il n'avait pas été un grand peintre. Parce qu'il a une manière de saisir les êtres, de les caricaturer, non seulement par ses dessins, sa peinture, parce qu'il y a une caricature extraordinaire chez Lautrec, mais il a des bons mots. Il saisit les êtres, quelquefois avec trois paroles. Et ça, c'est une capacité absolument hallucinante. Il y a un esprit caustique et analytique et naturaliste. Hop, il saisit l'être. Et je vais vous donner un exemple. C'est le docteur Péan. Le docteur Péan, c'est un chirurgien qui l'a peint. Alors, c'était la grande coqueluche de l'époque. C'est-à-dire qu'il se mettait en scène dans ses opérations. Autour de lui, les gens venaient le voir opérer. Donc, d'ailleurs, des peintres l'ont même peint en train d'opérer. Et donc... Lautrec est allé le voir, évidemment, comme c'était l'époque. Et le docteur Péan, il l'a saisi de manière terrible, déjà dans une lithographie, mais qui plus est, il a eu ce mot sur le docteur Péan. Péan a l'air, en fouillant un ventre, de chercher de la monnaie dans la poche. Voilà. Et là, je crois que ça résume fondamentalement la capacité de Lautrec à toucher juste, parce que cette parole, je crois, est arrivée aux oreilles du docteur Péan plus tard. Bon, il en était saisi parce que c'est tellement juste.
Et ça peut être appliqué aujourd'hui aussi.
Absolument.
C'est vrai qu'il aimait beaucoup la dérision, la provocation aussi d'une certaine manière. Et la vie et la mort ont également joué avec lui. Hein. On l'a dit, c'était un bon vivant, Henri de Toulouse-Lautrec. Il est enterré sur la commune de Verdelais, en Gironde. C'est un petit pied de nez aussi, là, sachant que lui, il aimait beaucoup les bonnes choses. Hein. C'était un épicurien. Et il nous a laissé de belles citations aussi. Il y en a une qui est souvent reprise d'ailleurs... sur les frontons de quelques magasins à Albi, là, je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin, il disait, ou encore le seul homme qui est mort d'avoir fait un trou dans son pantalon était scaphandrier. Il aurait pu écrire et c'est ce que tu nous as dit, et peut-être qu'il a écrit, non, Gérard Conton, Henri de Toulouse-Lautrec, il n'a pas laissé d'écrits, de romans, de choses comme ça, non ?
Il laisse rien. Mais par rapport à cette citation, je boirai du lait quand les vaches brouteront du raisin. Ce qui est drôle, effectivement, c'est qu'il est inhumé à Verdelais. Lorsque je suis allé sur sa tombe, là-bas, j'ai rencontré un jésuite, je crois, qui s'était beaucoup amusé de ce fait. Et lui, ça le ravissait, parce que sur le plan métaphysique, évidemment, c'était un clin d'œil absolument extraordinaire. Ah, il faut savoir que Chagall a peint une vache qui broutait du raisin. Voilà.
Okay.
Donc, on a trouvé la toile. On a cherché. Et il y a d'ailleurs une figure temporelle où il est en lien avec d'autres peintres qui il y a une histoire de lait et de vin et de raisin. C'est assez amusant parce que on voit que c'est des phrases comme ça presque prémonitoires à rebours qu'il a. Il y a beaucoup de phrases de ce genre comme ça, où on s'aperçoit que comme s'il anticipait des événements futurs sans le savoir.
Ouais. Et tu nous parles comme ça un peu, tu es allé sur sa tombe, ça vous a demandé je vais dire, quelle tonne de recherche pour consacrer un ouvrage sur Henri de Toulouse-Lautrec, parce que il est né à Albi, mais c'est surtout à Paris qu'il va passer sa vie. Il est enterré en Gironde, et finalement il était connu aux quatre coins du monde, même si c'était pas forcément de son vivant, mais on parle de lui-même au Japon.
Oui, tout à fait. Alors déjà, le travail de recherche, ça a été 7 ans. 7 ans de travail. Et on a fait un travail harassant au départ, parce qu'on a récupéré tous les actes de naissance et de décès des personnages qu'il a peints. Mmh. Ce qui nous a d'ailleurs permis de retrouver des actes de prostituées, ce qu'aucun critique n'avait fait au XXe siècle, parce que c'est un travail tellement exorbitant. Quelquefois, pour avancer de 3 lignes, il fallait compter 15 jours de boulot. Donc voilà, qui aujourd'hui accepterait de travailler 3 lignes pour 15 jours ? Hein ? Chez certains auteurs parisiens qui font un livre en 8 jours, je sais, évidemment, c'est pas la tendance.
Hein ? Marc Lévy, salut.
Voilà. Mais simplement, ça permet de découvrir des choses absolument extraordinaires. Par exemple, son cousin, l'un de ses cousins, on disait que ses parents l'avaient abandonné. Parce que son père était un préfet qui avait fait faillite, enfin il y avait toute une histoire. Eh bien, on a retrouvé par les actes qu'il était décédé chez Madame de Lautrec dans les années 20 à Toulouse. Voilà. Donc ça permet de tordre le cou constamment à des contre-vérités par manque de documentation. Quoi.
Ma curiosité est piquée au vif là. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'acte de naissance d'une prostituée à la fin des années 1800 en France?
C'est un travail de fou. C'est un travail de fou. Il faut d'abord trouver son vrai nom.
Pas simple.
Et alors, une fois qu'on a trouvé son vrai nom, si c'est l'état civil de la ville de Paris, c'est relativement facile parce que c'est sur le... Maintenant, c'est accessible. Mm-hmm. Mais lorsqu'on a travaillé, quand on a commencé à travailler dans les années 2000, les états civils n'étaient pas en ligne. Donc, on n'avançait pas. Et au moment où ils ont été en ligne, on a fait un bond en avant. Mais là, aujourd'hui, là, je travaille un livre sur la Révolution française, entre autres. Un acte d'état civil, ça peut me prendre 20 secondes pour l'obtenir.
Vive la numérisation.
Ouais, enfin c'est un, disons que c'est un.
Ah, ça te fait du mal de dire ça.
Voilà. Oui, parce que il faut s'en méfier, c'est-à-dire que les outils, il faut savoir les utiliser de manière intelligente et pas que ça devienne une addiction. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai que la numérisation dans ce cas-là permet des choses absolument extraordinaires. Donc voilà, c'est. Mais Lautrec, c'est un tissu. C'est d'abord un tissu de liens extraordinaire parce que. Non seulement on a découvert des liens de date entre sa propre famille et puis les êtres qu'il a rencontrés, donc comme s'il passait d'un monde à un autre sur un plan temporel, mais qui plus est, Lautrec fréquente les rues des maîtres qui l'ont marqué. Mmh. Exemple Goya. Il est fortement marqué par Goya, qui a cette férocité, cette capacité d'aller au-delà des apparences et de percer et de dire la vérité, parce qu'il veut dire la vérité vraie, Lautrec. Et lorsqu'il va séjourner en 1900 à Bordeaux, eh bien, il va habiter à quelques mètres de l'endroit où avait vécu 40 ans ou 50 ans plus tôt, non, 70 ans plus tôt, Goya. Donc constamment, on pourrait multiplier les exemples comme ça, mais comme s'il était sur les traces temporelles, mais et aussi de lieux, hein, des êtres qui l'ont marqué intellectuellement dans sa formation.
Et ce sont des faits, des exemples, des cas concrets qui titillent toujours votre curiosité, parce que pour résumer un peu la philosophie de cette émission, c'est qu'il n'y a pas de hasard, et on le voit au fil des émissions que l'on passe ensemble, Gérard Conton. Et il en faut plus d'une émission hein, pour parler de cet artiste Henri de Toulouse-Lautrec, auquel vous avez consacré un ouvrage paru aux éditions Mémoire du Monde. Et je te propose, Gérard, de nous retrouver le mois prochain hein, pour continuer à parler de cet artiste qui est important pour l'Occitanie, important pour le Tarn, important aussi pour saisir la culture et l'évolution de l'art en France. Hein. Henri de Toulouse-Lautrec, connu sous ce nom-là, mais son vrai nom, c'est Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa. Je redonne les références de votre livre « Henri de Toulouse-Lautrec » ou « Les labyrinthes du temps, art et géométrie temporelle ». C'est aux éditions Mémoire du Monde. Merci Gérard d'avoir été avec nous.
Merci, au revoir.